Merci, bonsoir à tout le monde. Alors moi, une chose qui m'avait particulièrement intéressée de l'étude des dénis, en fait, c'était l'expression qu'il n'y a pas forcément une règle fixe pour mettre en place un réseau social de succès et que les façons de l'implémenter, il peut être différent et varié. Moi, je pense que je suis un peu de toute l'autre partie de la mise en place d'un réseau social d'entreprise parce que chez nous, chez Sodexo, en fait, les réseaux sociaux d'entreprise n'étaient jamais lancés et on a eu un budget communication des zéros. Juste pour mettre un peu dans les cadres Sodexo, je pense que tout le monde connaît la société. Je ne sais pas si tout le monde connaît que Sodexo, elle a quand même à peu près 430 000 collaborateurs dans le monde et dans 80 pays. Donc je sais qu'elle est connue un peu en France pour la restauration, mais on fait plein d'autres choses. Et l'enjeu qu'on peut avoir en société comme Sodexo, quand on est aussi grand et très déplacé, même en type de gouvernance, en fait, c'est que quand un collaborateur veut vendre un service ou inventer un nouveau service, sûrement quelqu'un de la société l'a déjà fait, il a déjà fait des erreurs, et peut-être qu'on n'est pas trop efficace à réinventer la roue chaque fois. Donc, à partir de ce point de vue, ça fait à peu près 3 ans, notre PDG, notre président, il avait décidé de commencer à réfléchir à comment on pourrait être plus efficace dans notre façon de travailler. Et c'était une première discussion sur le knowledge management, qui par contre n'était pas appelé comme knowledge management. Mais c'était un peu dans cet esprit-là qu'on avait commencé à lancer des réflexions sur comment on peut être plus efficace et gérer la connaissance au sein de la société. À l'intérieur de cette réflexion, on s'est vite aperçu que pour pouvoir formaliser des bonnes pratiques, déjà, il faut investir. Et investir pas simplement en termes intellectuels, mais aussi en termes pratiques, parce qu'il faut formaliser plein de choses. Dans une société comme la nôtre, une société très terrain, très pratique, dans laquelle personne n'aime formaliser. Donc déjà initialement, la réflexion sur comment on améliore la connaissance, ou en tout cas le partage des connaissances, c'était de se concentrer sur la collaboration. Et c'est à partir de là que nous avons lancé une plateforme collaborative. Alors, lancée ou pas lancée, nous à l'époque, nous avions déjà de la société des outils style SharePoint qui étaient mal utilisés et pas utilisés pour notre collaborateur. Donc, dans cette réflexion, on s'est dit « Ah, ben, pourquoi pas utiliser les fonctionnalités Web 2.0 ?» Alors, c'est intéressant aussi toute la réflexion qui est sortie là-dessous parce qu'aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux d'entreprise. Alors, chez nous, les mots « social » étaient bannis depuis les débuts parce qu'on avait en connotation tout de suite Facebook. Et donc, on n'a jamais rentré dans ce type de discussion. Mais, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que les réseaux sociaux sont une révolution ou une évolution ou une sous-version? Alors, à mon avis, c'est tout en question des vitesses. Si j'ai pu parler aussi à nouveau d'Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent, il y a eu vraiment une implémentation des réseaux sociaux d'entreprise selon un peu un esprit Big Ben, dans le sens qu'ils l'ont lancé, ils l'ont mis à disposition de tous les utilisateurs, un peu open bar. Chez nous, c'était une approche complètement différente et c'était un accompagnement très proche avec une implémentation, nous, comme on appelle une implémentation virale contrôlée, c'est-à-dire que nous avons ouvert la plateforme aux utilisateurs de façon très pointillée, à petits pas, avec des petites communautés au début qu'on a accompagnées. Et on a laissé la plateforme se développer, c'est-à-dire on a laissé les utilisateurs arriver sur la plateforme pour eux-mêmes. On n'a jamais fait de la publicité et on a accompagné des premières communautés sur des besoins business qu'ils avaient. Et les communautés, ils ont fait si que les animateurs de communautés eux-mêmes ont formé leurs membres de la communauté qui en potentiel sont devenus des autres membres des communautés. On n'a jamais donné, même aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans et demi que nous avons la plateforme ouverte, les utilisateurs ne peuvent pas tout seuls ouvrir en communauté. C'est-à-dire que l'ouverture d'une communauté, ça passe pour un certain nombre de personnes, pour une gouvernance. Et quand quelqu'un nous contacte pour pouvoir ouvrir en communauté, en fait, on les challenge sur leurs besoins d'ouverture d'une communauté. Et on les challenge aussi sur comment ils vont utiliser la plateforme. C'est une discussion qui s'apprend 2-3 allers-retours. On n'a jamais arrêté une communauté d'être ouverte. On a simplement utilisé cette occasion pour former de façon implicite les personnes en bon usage de la plateforme. Et à fur et à mesure, les utilisateurs formés pour leurs pairs. En réalité, quand on parle d'accompagnement très près des utilisateurs, nous, on part du point de vue que chaque collaborateur peut être lui-même un ambassadeur et potentiellement un responsable d'une communauté. Donc, notre démarche était une démarche de faire si de chaque fois que quelqu'un devient un responsable d'une communauté, est formé pour être lui-même un formateur pour les autres collaborateurs. Pour parler simplement de quelques belles histoires ou des histoires que nous ont permis de faire si que cette plateforme collaborative soit un succès, alors je reviens au moment à la question de ROI, parce qu'effectivement c'est toujours un grand souci. On a réussi à se débarrasser de cette grosse problématique plutôt rapidement. On a eu une phase pilote de 6 mois. Dans cette phase pilote, nous avons eu à peu près 200 utilisateurs et c'est dans cette phase-là que nous avons eu besoin de justifier l'investissement initial. À nouveau, on s'est beaucoup concentré sur des résultats qualitatifs, notamment si les utilisateurs ressentaient que la plateforme les aidait pour leur travail de tous les jours par rapport à précédemment. Une fois qu'on a passé 6 mois dans lesquels on a fait cette analyse un peu plus approfondie, on est passé dans une deuxième phase dans laquelle on a réussi à créer une communauté de notre top dirigeants qui ont commencé à utiliser la plateforme eux-mêmes, notamment grâce à l'interface mobile, hein, parce que les top dirigeants aujourd'hui, je ne sais pas de combien d'entreprises, mais en tout cas dans notre entreprise, dès qu'ils ont découvert que grâce à leur tablette, ils pouvaient se débarrasser de l'ordinateur, ils ont fait ça. Donc du coup, aujourd'hui, les ordinateurs de notre dirigeants sont gérés pour leurs assistantes. Eux, ils gèrent à travers leur téléphone et leur tablette. Donc l'effet d'avoir un outil qui est interfaçable avec la tablette, elle permet de trouver des nouvelles façons de travailler pour nos dirigeants. Et une fois qu'on a les dirigeants là-dessous, on ne se pose plus la question s'ils sont utiles ou pas utiles. Et à ce moment-là, on a arrêté de se demander s'il y avait un ROI ou pas. Donc c'est un peu dans cet esprit. On a quand même communiqué beaucoup à travers des histoires, des belles histoires. Donc c'était plutôt l'équipe des réponses aux appels d'offres internationaux, parce que c'est prêté particulièrement bien et on voyait particulièrement bien la valeur qu'un outil de ce type pouvait apporter. Alors si j'ai vraiment 2 minutes pour parler de ça, simplement pour faire un petit historique, en fait nous avions identifié une personne qui était plutôt ouverte à l'utilisation des nouvelles technologies au sein de ce département. Aujourd'hui c'est un département qui compte à peu près une trentaine de personnes. Nous avions identifié une personne et dans la phase pilote avec cette personne, nous avons travaillé pour répondre à un appel d'offres en espérant énormément de gagner l'appel d'offres pour cette réponse qu'on a perdue. Donc, initialement, on avait pensé de s'être trompé complètement parce qu'on ne pouvait pas parler, avoir une belle histoire de ce qui s'était passé. Mais en fait, une fois que nous avons conduit cette expérimentation, la personne qui était responsable de la réponse à l'appel d'offres elle est venue nous revoir encore plus excitée qu'avant. Parce qu'en fait, il nous a dit, je me rends compte que ce n'était pas un problème d'outils, c'était vraiment un problème d'organisation, de comment nous sommes structurés, de comment faisons les choses. J'aimerais bien ouvrir un deuxième espace pour répondre à un deuxième appel d'offres. Bien sûr, les deuxièmes allaient mieux, donc on a gagné l'appel d'offres, mais en parallèle de ça, il avait impliqué plein d'autres personnes sur la réponse à l'appel d'offres et une autre personne elle a décidé d'utiliser la plateforme pour répondre à un appel d'offres. Bon, j'ai fait une histoire très très brève. Après 4-5 mois, ils ont montré à leur directeur de département qu'est-ce qu'il avait fait. Et à ce moment-là, c'est le directeur de département qui a imposé à toute son équipe d'utiliser cette plateforme pour répondre aux appels d'offres. Donc aujourd'hui, tous les appels d'offres internationaux auxquels on répond, ils passent simplement sur la plateforme. Donc on a abandonné les emails dans ce sens-là. La plateforme, ça continue. À fur et à mesure, on a des personnes qui montent. Notre prochaine étape aujourd'hui, à part l'accompagnement individuel dans les termes que j'ai proposés, c'est un peu la question, aujourd'hui on se pose la question d'ouvrir plutôt à notre partenaire extérieur, notamment notre client et nos fournisseurs. À nouveau, c'est une ouverture qu'on est en train de faire un petit pas. On a commencé à lancer quelques expérimentations, mais à nouveau, on évite les Big Ben. Chez nous, culturellement, tout ce qui est révolutionnaire, ça fait peur. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous procédons chez Sodexo.